Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche Casse-des-Bulles où, avec Christol Féec, nous allons continuer à explorer les origines de la bande dessinée, les fondateurs. Alors, au début, on s'était dit qu'on allait parler des grands albums qui nous ont marqués, et puis Christol, enthousiasmée par le sujet, nous a encouragés à faire un tour du monde, ou presque, de la bande dessinée, en s'intéressant non pas aux grands albums franco-belges qui ont fondé notre amour pour le genre, mais au contraire à tout ce que nous avons découvert en cours de route et tout ce que nous continuons à découvrir, avec notamment un remarquable travail qu'il a abattu sur les bandes dessinées italiennes, les fumetti, comme on dit, les petites fumées, c'est-à-dire les chronobitchen, comme on dirait en flamand. Donc tous ces signes, en fait, qui témoignent du mouvement et qui permettent, à l'intérieur d'une image fixe, d'expliquer qu'il y a quelque chose qui bouge, ce sont les traits, ce sont les tourbillons, ce sont les petites fumées, voilà, qui signalent la course, la fuite, la disparition. Parfois, il ne reste plus que la fumée derrière. Eh bien, voilà, donc c'est Fumetti, c'est bien sûr la bande dessinée italienne avec, comme partout ailleurs, des réussites éclatantes, des échecs non moins éclatants, une vulgarité certaine de temps en temps et de purs chefs-d'œuvre à d'autres côtés. Christol, vas-y, dis-nous comment tout commence.
Eh bien, tout commence en Europe comme aux États-Unis par Top Fer. On l'avait déjà exposé. Top Fer, le Suisse qui a inventé la bande dessinée et qui a été piraté. Ses BD ont été exportés dans toute l'Europe et notamment en Suisse où, comme en France, dès le milieu du 19e siècle, dans les journaux politisés, satiriques qui sortent dans toutes les villes, on retrouve une demi-page ou une page de dessin satirique. Ce n'est pas encore de la vraie bande dessinée, mais ce sont quand même les prémices. Le véritable début de la bande dessinée en Italie, et il faut le dire, c'est la bande dessinée pour enfants dans ce pays, c'est un journal destiné aux enfants qui s'appelle Corriere dei Piccoli et qui sort en 1908. Et donc, il faut savoir, c'est amusant de noter, que ce journal a vécu de 1908 à 1995. On peut calculer qu'il y a eu 4-5 générations de jeunes enfants italiens qui ont lu cette série, 4500 numéros au total. Ça a duré 88 ans. Ça n'existe plus. Mais il faut relever quand même qu'à ses débuts, c'était une revue un peu d'obédience patriotique. On est quelques décennies après l'unification des États italiens et il y a un foisonnement politique, ce qui explique l'esprit patriotique de cette revue. Et dans tous les titres du début du XXe siècle, un seul est resté dans les mémoires, non pas en France, on ne connaît pas cette série, mais en Italie. Ça s'appelle Bilbo le Bulle, pardon. Bilbo le Bulle, alors c'est pour les enfants, c'est un petit personnage africain, né dans un village africain sous la colonie italienne. Et ce petit enfant, eh bien, change de couleur de visage au gré de ses émotions. Si on lui dit tu as fait une bêtise, tu dois être rouge de honte, l'enfant devient tout rouge. Et c'était une bande dessinée donc qui amusait les enfants, avec peut-être un esprit colonial, mais très gentil, pas du tout injurieux pour les Africains. Et en fin de compte, on est resté comme ça avec des BD pour les enfants dans les années 1910-1920, jusqu'à l'arrivée de Mussolini. On rappelle que la marche sur Rome, c'était en octobre 1922. Et il faut savoir que quelques mois après, le pouvoir italien a eu dans l'idée d'éduquer les masses une volonté de diriger à minima la presse et notamment les journaux pour les enfants. Mais il faut relever aussi que les éditeurs d'eux-mêmes, sentant le changement arriver, eh ben, d'eux-mêmes ont décidé de créer des dessins, des planches de nouvelles séries à destination des enfants. Pardon, à destination des enfants, mais pour pouvoir aussi plaire au nouveau régime fasciste. Et donc, de nouvelles revues se sont créées. Et sans doute que le titre le plus connu pour les enfants de cette époque fasciste, c'est Il Balila. El Giornale dei Balila. En fin de compte, c'était un journal pour les enfants, comme celui que j'ai exposé juste avant. Mais la particularité, c'est que c'était vraiment le journal de l'organisation fasciste destinée aux enfants. C'est si vrai que ce petit journal, en 1925, est devenu un supplément d'Il Popolo d'Italia. l'organe du Parti national fasciste. Et donc, lorsque leurs parents lisaient le Popolo d'Italia, eh bien, les enfants pouvaient lire Balilla. Alors, que représente ce petit journal? Eh bien, souvent, on a un petit enfant, une dizaine d'années, en chemise noire, qui vit des aventures. Et Richard, tu as dû peut-être t'amuser à découvrir, je t'ai envoyé quelques petites planches. Et dans certaines, on voit le petit Balilla, le petit fasciste, faire le salut fasciste à François d'Assise, lequel applaudit à l'arrivée des avions italiens. Bon, c'était comme de la propagande pour enfants.
Ça manque de subtilité, mais il y a quelque chose d'absolument fascinant, évidemment, dans ces bandes dessinées politiques, c'est la manière dont il n'y a aucune distance prise par rapport au discours officiel. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est alors que les fascistes comprennent très bien le cinématographe, comme on disait à l'époque, un art moderne, une invention récente, une technique qui ne cesse d'évoluer avec des inventeurs dans le monde entier qui améliorent les techniques de prise de vue, de prise de son, de synchronisation. Et ce qui permettra aux Italiens de développer Cinecittà, aux fascistes italiens de développer Cinecittà et la Mostra de Venise. Eh bien, sur les bandes dessinées, ça reste très, très classique, avec notamment l'absence de bulles dans Balilla. Donc, on est encore dans des histoires qui sont bien des histoires séquentielles, mais qui sont en fait des vignettes commentées avec un texte qui court sous la vignette et qui duplique en fait plus ou moins ce qu'on voit, donc qui récite, qui décrit ce que l'image montre. Autrement dit, qui passe à côté de ce qui est normalement cette alliance inégalée du texte et de l'image, et où normalement le texte ne dit pas ce que l'image montre, et l'image n'essaie pas de suppléer au texte.
Alors effectivement, on est tout au début, hein. Je ne sais pas si à l'époque Tintin au pays des Soviets est déjà exporté en Italie, mais rares sont à l'époque les planches contenant des bulles. De même pour le journal à destination des jeunes filles qui s'appelle la Piccola Italiana, où on apprenait aux jeunes filles comment travailler à l'école et aussi comment se préparer à leur vie future de femme au foyer. Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y avait un mélange dans toutes ces revues d'esprit, enfin d'idéologie fasciste, et également de catholicisme. Et il y avait même une revue, celle-ci étant purement catholique, puisque fondée par un prêtre, Giacomo Alberione, en 1924, c'était Il Giornalino. Bon, les éditeurs ont compris que je ne suis pas très un grand italianisant. Et le fait est que là, c'était vraiment une revue catholique, comme on pouvait en avoir aussi en Belgique et en France. Mais il faut savoir aussi que dans les années 20 et jusque dans les années 1925, même au début du fascisme, on trouve très facilement la production américaine, notamment les séries de chez Disney, et notamment Mickey, qui avait beaucoup de succès aux États-Unis, dans une revue qui s'appelait Topolino. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans cette revue à destination des enfants, Topolino, il y a eu la première série italienne de science-fiction qui s'appelait Les Hommes Verts. Et c'est amusant puisque c'est la découverte par un jeune Italien, un plongeur avec un scientifique, d'une cité atlante au large des Açores, où il connaîtra au fond des océans des aventures avec les Atlantes, et avec aussi un peuple ennemi qui veut éradiquer les Atlantes. Et quand on le lit, quand on parcourt les planches, on ne peut que penser à Blake et Mortimer, son album sorti dans les années 50 sur l'Atlantide, dont j'ai oublié le titre, L'énigme de l'Atlantide, ou je ne sais plus si c'est celui-là.
C'est ça, L'énigme de l'Atlantide, tout à fait.
Exactement. Et je pense qu'il le connaissait parce qu'il y a quelques petits points marquants. Et parallèlement à ces diffusions de séries américaines ou italiennes, il y a également une italianisation de séries anglaises. C'est-à-dire qu'il y a d'autres journaux, notamment Jimbo, qui sort en Italie, qui reprend les dessins de journaux anglais destinés aux enfants et qui change les bulles et les passages pour en faire une bande dessinée italienne. Et par exemple, dans Jumbo, on a une série où un aviateur anglais qui s'appelle Rob the Rover devient Lucio l'avant-gardista, le jeune avant-gardiste Lucio, qui devient un pilote dont le biplan s'appelle, ça ne s'invente pas, Dux, et dont la jeune fille s'appelle Romana. Pardon, la jeune fiancée s'appelle Romana. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Mussolini se rend compte du danger américain et décide d'interdire en 1938 aux journaux destinés à la jeunesse de diffuser des bandes dessinées d'origine américaine. Mais selon la légende, les petits-enfants de Mussolini aimaient beaucoup Mickey. Et donc, il n'y a eu que Mickey qui a été autorisé à continuer de diffuser en Italie, tous les autres étaient interdits. L'avantage quand même de cela, c'est que ça a créé, ça a développé une profusion de dessinateurs et scénaristes italiens, puisque maintenant il y a plus de place pour eux dans les journaux. Et c'est ainsi qu'est née la grande série fasciste italienne qui s'appelait Romano il Legionario, Romain le Légionnaire. C'est amusant de savoir que cette série a été créée sur les scénarios et pour le dessin par Kurt Caesar. Alors, c'était un jeune homme né en Moselle qui, à l'époque, avait été... alors, en 1938, non, c'était la Moselle, non, c'était plus l'Allemagne, pardon. C'était la France. Et il s'est installé en Italie dans les années 30. Il est devenu dessinateur de bande dessinée. Mais comme la France a perdu la guerre en 1940, la Moselle redevient allemande et il est incorporé en 1943 dans l'armée allemande. Il participe à la campagne de Libye. Donc, je le précise, non pas dans l'armée italienne de Mussolini, mais dans l'Afrika Korps de Rommel, et il devait même un interprète pour Rommel. Un interprète pour Rommel. Et en fin de compte, le héros qu'il avait créé, c'était également un aviateur qui s'appelait Romano, dont les premières aventures, lorsque la série sortit en 1938, s'est déroulée pendant la guerre d'Espagne. Et au gré des années qui vont défiler, jusqu'en 1943, on va avoir participé aux différents combats, même contre les alliés et contre les communistes. Et on se doute que, comme beaucoup de dessinateurs et de scénaristes en France comme en Italie, eh bien, il a retourné sa veste en 1943-1944, participant à la résistance pour ne pas avoir d'ennui à la libération de l'Italie.
Il a eu bien raison. Ce qui est amusant, c'est de faire un saut direct à ce dont nous allons traiter la semaine prochaine, c'est-à-dire les mangas, ou plutôt la culture japonaise, en rappelant que l'un des films de Miyazaki, donc l'auteur de Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, etc., s'appelle Porco Rosso. Et Porco Rosso est une histoire d'aviateur italien entre 14-18 et 39-45, qui a été transformé en cochon pour une raison qui n'est jamais expliquée dans le film. Et il y a chez Miyazaki une espèce de passion pour l'aviation, mais aussi l'Italie et cette période fasciste qui est tout à fait surprenante. Et on peut trouver des échos de la bande dessinée dont tu viens de parler, donc dans Porco Rosso, film curieux et qui mérite le détour, non pas tant parce que le fait de voir voler un cochon sur un avion rouge est un spectacle admirable, mais c'est parce qu'il a quelques images pleines d'une poésie macabre qui sont véritablement intéressantes, avec notamment un vol d'aviateur mort qui plane lentement au-dessus de la terre et qui font vraiment partie de ces images frappantes telles que l'imaginaire japonais est capable de les restituer, avec sans doute un petit détour par Gustave Doré et quelques artistes symboliques du 19e européen. Je t'ai interrompu, mais je vais continuer à t'interrompre, puisque, chers amis, merci de nous écouter, merci d'écouter Radio Courtoisie. C'est évidemment grâce à vos dons que cette émission existe et toutes les autres, donc n'hésitez pas, continuez à nous soutenir, soutenir.rc.fr. Voilà, c'est le site qui vous permet de donner en ligne. Pas besoin de donner des sommes folles. Enfin, si vous les avez et que vous êtes prêts à les donner, n'hésitez pas. Mais voilà, 1, 2, 5 euros, ce sera parfait. soutenir.rc.fr. Alors, nous t'avons abandonné au moment où tu expliquais que le fasciste avait tourné sa veste. Ça me rappelle une anecdote que me racontait mon père, qui était attaché militaire après la guerre, notamment dans tous ces pays d'Afrique du Nord où il y avait eu une présence italienne, et un Italien lui disait: j'étais fasciste, qui ne l'était pas, je ne le suis plus, qui l'est encore. Voilà. Donc, les fascistes italiens étaient en fait surtout des Italiens et qui avaient décidé de continuer à vivre tranquillement d'une manière beaucoup plus décomplexée que ça ne s'est passé dans d'autres pays. On en était
On était
aux
aux années 30,
aviateurs et aux années
40,
30.
années 30, années 40. Pour rebondir sur ce que disais précédemment, dans les planches italiennes des années 30 commencent à apparaître les bulles, donc les revues fascisantes avec les héros aviateurs italiens, notamment pendant la guerre en Afrique du Nord. Eh bien, ces planches-là contenaient des bulles, et donc là, on est dans la vraie bande dessinée. À mes yeux, la plus grande réussite de cette époque, c'est une série sur Faust, sur le docteur Faust. C'est vraiment une très belle série, mais j'ai découvert toutes ces séries-là sur Internet en italien et j'ai pas eu le temps de rechercher si on pouvait les trouver éditées en France, en français. ceux qui regardent des vieux films italiens, on sait que Google peut faire la traduction automatique des sous-titres italiens en sous-titres français, mais nous, pour les BD, il n'y a pas ce loisir-là. On peut pas automatiquement traduire des bulles françaises en bulles italiennes en bulles françaises. Donc, ce serait peut-être un outil inventé avec l'intelligence artificielle. En tout cas, on passe un cap. L'Italie a perdu la guerre en 1943, 44, 45. Il n'y a pas eu les mêmes problèmes qu'en France, où plein de gens, dessinateurs, scénaristes ont été embêtés à la Libération, pour le dire ainsi. C'est ainsi que, par exemple, Corriere dei Piccoli, le premier journal pour enfants, subsiste tel quel. Mais comme l'Amérique a gagné la guerre, ça y est, de nouveau, les comics débarquent en Italie, et notamment Flash Gordon et Mandrake, qui là-bas ont beaucoup de succès. Et donc, on peut se dire, eh bien, il n'y a pas encore eu vraiment de spécificité italienne dans la bande dessinée. Ce qu'ils faisaient là-bas, on le retrouvait un peu en France, dans les journaux catholiques hein, pour enfants. Rien de nouveau. Et il y a eu le miracle italien. Alors, il y a eu le miracle du cinéma, mais aussi le miracle de la bande dessinée. Aujourd'hui, en Italie, la bande dessinée est considérée comme un art à part entière. Peut-être davantage qu'en France. Là-bas, c'est vraiment considéré comme un art. C'est si vrai que en France, lorsqu'on parle de bande dessinée, on parle de série, de titre. Et en France, lorsqu'on parle de BD italienne, on parle d'auteur. On va parler d'Hugo Pratt, de Battaglia, de Sergio Toppi. On parle d'auteur. C'est parce que là-bas, plus qu'ici, la bande dessinée est un art. Un art, eh bien, il a sa cause, et sa cause, c'est un miracle qui s'appelle l'As de pique. On est en 1945 à Venise. Ceux qui connaissent la bande dessinée italienne me voient venir. Ils savent que Hugo Pratt habite à Venise. Effectivement, Hugo Pratt, avec des amis, dont Alberto Ongaro et Dino Battaglia, décide de sortir un petit journal pour les Vénitiens dans lequel paraît une bande dessinée, L'As de pique. Eh bien, voyez-vous, chers auditeurs, c'est ainsi qu'est né l'art italien de la bande dessinée. Et j'en ai déjà souvent parlé dans ton émission, d'Hugo Pratt, d'autres auteurs italiens. Et c'est vraiment aujourd'hui une spécificité italienne de rechercher une bande dessinée artistique et surtout culturelle. Il y a beaucoup d'adaptations littéraires et même les auteurs comme Hugo Pratt, s'ils n'adaptent pas de la littérature, des romans, sont considérés par les spécialistes comme étant une sorte de roman, pas de roman graphique, mais sa narration est proche de celle de la littérature, tellement elle est recherchée et subtile. Et donc aujourd'hui, la BD italienne, pour l'essentiel, est devenue une bande dessinée pour adultes. Jusque dans les années 45, c'était une BD pour les enfants, rien pour les adultes, sauf s'ils s'amusaient à lire les petits héros fascisants en avion. Mais à partir de 45, du moins celle qui est exportée, c'est la BD pour adultes. Et je ne sais pas si dans tes lectures, tu connais des BD pour enfants italiennes, ou comme moi, tu ne connais que des BD plutôt pour adultes ou adolescents.
Alors, c'est vrai que je connais surtout les bandes dessinées.
Et comme
Quand
moi,
on
oui.
dit pour adultes, il faut bien qu'on s'entende tous, chers
Oui,
auditeurs.
bien sûr,
Les
excuse-moi,
bandes dessinées
vas-y.
pour grandes personnes, hein, c'est pas non plus. On est voilà. Donc, effectivement, les excellentes histoires d'Hugo Pratt, de Battaglia et de Mickey Luzzi, qui est l'un de mes préférés. Mais il y a aussi tout un tas de bandes dessinées, si je ne m'abuse, de pirates. Dont je n'arrive pas à me rappeler le nom au moment même où je vous parle, et qui était, si je ne m'abuse, des bandes dessinées italiennes avec un tronc, un trait, pardon, très disneyen, donc vraiment une espèce de trait caricatural et schématique, mais rondouillet et aimable. On retrouvera ça plus tard. Mais c'est vrai que la bande dessinée pour enfants, je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. On a plus l'impression de bons faiseurs qui se coulent dans un moule décidé par l'éditeur, avec une série dédiée aux pirates, une série dédiée à tel ou tel créneau, si j'ose dire, de la littérature de genre, que d'auteurs véritables qui développent d'abord un style très particulier, comme Hugo Pratt, et des univers qui sont ceux de leur fantaisie, plus que l'exécution plate de telle ou telle chose. Il y a, cela dit, une bande dessinée italienne, entre guillemets, platement illustrative, mais assez réussie dans le genre, avec tous les auteurs de bande dessinée qui se sont essayés à adapter les grands auteurs de romans populaires du 19e et du 20e. Où il y avait des gens qui étaient l'équivalent de Jules Verne, d'Alexandre Dumas, et qui ont été adaptés, réadaptés sans cesse par les là aussi les éditeurs commandant des adaptations littéraires de grands romans populaires d'aventure. Et voilà. Et là aussi, d'ailleurs, voilà, on connaît le nom du héros, on connaît parfois le nom de l'auteur initial, voilà. Mais c'est vrai que les adaptations d'Alexandre Dumas, on a plutôt tendance à dire qu'on a adapté les Trois Mousquetaires plutôt qu'à se rappeler le nom de celui qui a appelé les Trois Mousquetaires. Il se passe la même chose pour Segantini et d'autres auteurs dans ce goût-là.
Et puis la BD italienne a poursuivi donc jusque dans les années 70 où c'est en 1969 qu'Hugo Pratt fait paraître La Ballade de la mer salée avec le héros si connu Corto Maltese. Et donc Hugo Pratt emmène un peu dans sa valise en France tous les grands dessinateurs italiens. Avant, ils étaient méconnus et dans les années 1970, la France découvre un autre univers de la bande dessinée. Parallèle aux comics et aux mangas, un autre univers, c'est la BD italienne. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui aiment la bande dessinée connaissent de nom Milo Manara, qui est un très grand dessinateur, mais à mon regret peut-être, mais il s'est focalisé sur la bande dessinée plutôt érotique, à 80%, 90%, mais il n'y a pas que ça. Et aussi, mes deux dessinateurs italiens préférés même par rapport à Hugo Pratt, c'est Vittorio Giardino et Attilio Micheluzzi qui vraiment nous enchantent à chaque fois. Alors, ils font plus beaucoup d'albums, ils doivent être très vieux, je crois que les deux sont encore en vie. Non, pardon, Micheluzzi est décédé en 1990 et Giardino est encore en vie. Et parfois, on présente aussi dans les albums qui viennent de sortir, on cite à chaque fois des dessinateurs italiens. Alors, on peut admirer leurs dessins, mais ceux-ci ne sont pas encore faits un nom. Je pense que dans la BD italienne, il n'y a pas encore vraiment de nom très connu d'une nouvelle génération. La génération que l'on côtoie, c'est celle des années 70 qui commence à ne plus beaucoup sortir d'albums. Certains sont décédés, d'autres sont âgés. Mais j'ai pas en tête de nom de nouveaux dessinateurs italiens qui auraient vraiment percé. Mais il y en a beaucoup qui sont doués et ils n'ont sans doute pas encore eu la chance de créer un personnage ou de réaliser une série qui plaise énormément au grand public, qui marque les esprits, et c'est ainsi qu'on reste dans l'univers de la bande dessinée pour des générations et des générations. Non, je sais pas si
Merci.
tu en vois. Oui.
Non, non, mais voilà, on va être obligé de se quitter de toute façon, et donc. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler du Japon. Et voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est pas du tout Segantini qui est un peintre italien. C'est Salgari, Emilio Salgari. Voilà, immense auteur de romans populaires italiens du 19e, avec notamment qui a créé le héros Sandokan. Merci beaucoup, Christol, pour cette plongée passionnante dans la bande dessinée italienne. Et donc, chers amis, à la semaine prochaine, où nous allons pouvoir évoquer le manga, la naissance de la bande dessinée japonaise, et donc qui a, vous le savez, été un phénomène d'édition mondiale après avoir été un produit extrêmement local. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.